Mot-clé 8, le langage. Revoir l'utilisation du langage pour approcher au mieux ce que nous voyons, percevons et comprenons. Alors le langage, séquence 1, poser la question du langage comme grille de conception et image de nos négociations et mode de présence. On m'a demandé donc de définir comme une sorte de lexique et de mots-clés la manière dont je pensais la notion de langage et dont je m'en servais. Eh bien, je vais me plier à cet exercice en disant que je définirais le langage comme une présence de notre esprit, d'une certaine façon, qui nous met en rapport avec lui, d'une part, et premièrement, et en rapport par là aussi avec nous, avec notre présence et notre corps, d'autre part, ou par ailleurs. Et donc, en fait, trois niveaux ou trois types de présence conjointes. Et d'autre part encore, ce qui nous met en rapport et comme en négociation de présence avec nos environnements. Ce dernier rapport et lien étant une sorte de quatrième mode de lien et de rapport et étant à spécifier, d'autant qu'il est très important. Je définirais dans ce contexte, le corps comme étant un médiateur constant et incarné, et constant et présent. Il nous met en présence de nos environnements, est alors dans ce qu'il permet et nous permet de réaliser comme un négociateur fondamental de présence et de contact avec nos environnements, en mode de conception et en mode d'échange avec eux. Le corps est présent pour nous de différentes façons, mais de façon curieuse, il est ou nous apparaît aussi comme présence de notre esprit et comme informateur. Je dirais même comme présence de présence quand il s'agit de notre esprit. Et notre langage apparaît comme une négociation constante entre nous, comme corps et esprit, et notre environnement. Je dis bien notre environnement, car sur le plan de la réalité, extérieur et comme objectif et comme distante et des constats, il est évident, bien évident, que nos environnements sont pluriels, sont différents sur le plan de la compréhension, sur le plan de l'entendement, de leur diversité et de leur qualité de présence. Je dis nôtre car cela fait partie de notre façon de nous parler des choses et de notre réalité, et pas seulement d'en parler. Et de ce fait, le langage, qui est aussi, qui est notre façon de parler, est aussi une façon essentielle de nous parler et d'être, et de rester en contact en premier lieu avec nous-mêmes, comme une forme de présence et de notion du continu. Et cela aussi comme une présence toujours présente, mais en arrière-plan. Il faut donc tenir compte de l'ensemble de ces données. Il instaure la notion de continuité, donc, dans la présence, au travers d'elle, et par le moyen de l'existence de notre présence sous ses formes. Ce qui fait qu'en premier lieu, et en grande partie, nous nous parlons les perceptions. Et nous nous parlons les perceptions liées à notre corps et à notre esprit. En tant que perception et sentiment fondamentalement de présence. Et au travers de ce tunnel que je viens de décrire, de faire sentir, ce tunnel de présence, se fait valoir une variation, une variabilité par rapport à la perception de nos émotions. Celle-ci étant aussi une variation et un constat de notre présence ou en rapport avec elle. Mot-clé 8, le langage, séquence 2. Le langage comme représentation de nous et de notre esprit. Et c'est sous cette forme que j'aborde maintenant cette notion du langage en tant que représentation de nous et de notre esprit. On verra pourquoi, dans le cours de mon énonciation et de son développement au possible, je dis « nous ». Et ce « nous » ayant une valeur pas simplement de nommer du collectif ou du nombre. Le langage est une représentation implicite, constante de nous et de notre esprit. C'est cela que je poserai d'abord comme concept-image. Il est un médiateur de conception essentielle. Et là, je le pose comme instrument mental fondamental. Il n'est pas le tout de notre esprit en rapport avec cette fonction et cet usage de l'esprit ainsi cité, mais une part de ce dernier. On peut maintenant questionner pour demander et obtenir une définition de la notion d'esprit, puisque cela a été avancé, mais bien qu'on ne puisse pas justement tout définir. Et pour différentes raisons intéressantes à penser, mais faisons seulement que de les évoquer. Ce qu'on ne peut pas donner, ou pas vraiment, cette définition de l'esprit comme notion. Elle est trop grande, trop implicite, trop englobante, on peut dire déjà. Et aussi parce que les notions impliquent des niveaux de réponse qu'il faut mettre à plat et rendre présentes de façon homogène avec les questions ou leur niveau. On peut essayer de développer la question comme je viens de la poser en tant que modèle. Le terme de modèle alors n'est pas vraiment quelque chose qui sert suffisamment et pour ma part je suis obligé de dire en mode de mode modèle pour bien cerner la chose de modèle. Ceci étant, on peut poser ou remarquer que l'esprit se conçoit plus ou moins comme une sorte d'organe, ou comme un tout, et ce qui a trait à cette notion implicite ou image ou idéale de pensée, voire de représentation, ne peut être atteint que partiellement ou que comme partie. On peut dire que l'esprit est une façon de nommer encore ou de se rendre conscient de quelque chose d'important de soi et pour soi, d'être en relation ou de se mettre en relation. On peut encore réduire la question et la réponse en disant que concernant L'esprit, il s'agit d'un élément de langage qui est un instrument de notre esprit et que c'est un nom, une signification, une façon de nous parler, de nous nommer quelque chose ou différentes choses, de nous les rendre présentes au-delà de la question de leur présence. Et pour être en rapport avec elle, et qu'elle nous soit comme consciente. On a là différents niveaux de médiation. On tombe là sur des panneaux entiers du fonctionnement mental et des fonctions de connaissance que je nommerais, par exemple, des panneaux ou panneaux, mais de façon plus large, plus intuitive, muette et non réfléchie, je dirais, je penserais et je vous confie cette pensée, l'esprit est parole et langage. Et c'est encore alors une relation et une médiation que nous avons à considérer. Mais c'est aussi une présence physique, plus ou moins indécidable ou innommable, mais une présence fondamentalement. Et quand on demande, c'est quoi cela, telle chose, on tombe devant un paradoxe riche, prometteur, producteur, qu'on peut appeler, de façon, à mon avis, assez justifiée, un complexe. Mais il faut définir ce qu'on entend par complexe, c'est-à-dire quelque chose composé de plusieurs choses et qui, d'une part, est abouti à un échange, à échanger une perception contre une autre, une notion contre une autre, mais le tout sur un fond de perception et d'échange entre perceptions. Puis, un complexe étant un élément dans sa conception et dans son ensemble, je dirais, trinitaire, ce qui n'apparaît pas officiellement et pas dans son ensemble ou dans son entièreté en même temps. À savoir que quand on demande par et avec son esprit et sa médiation, et qu'on se demande, avant que de poser la question, comme au dehors, c'est quoi ceci ou cela? Et comme un langage ou un esprit d'enfant en montre l'exemple. On tend alors comme un objet physique de perception, de perception en mode de démonstration, en mode d'avancée, mais aussi de perception auditive, pour demander une définition qui soit ou puisse être un nom et une signification de langage, comme si on tendait à la fois la main et l'oreille. On demande du nom qui a ou aurait du sens. Et c'est ce qu'on peut appeler une conversion. Une conversion en mode de langage et d'esprit. Et cela est à préciser. Et à partir de choses du monde extérieur, comme forme de la vie mondaine, environnante, y compris peut-être psychologique, mais sans confondre ou faire disparaître les perceptions, les choses sensorielles, les choses de sens, les choses de réalité, les choses de corps, les enjeux de sensations corporelles, les choses extérieures, avec leurs nommés, leur parler ou leurs usages. Quand je parle de conversion en juste proportion ou en nomination, c'est évoqué dans ces termes et en forme de qualité un langage qui permette de se dire, de se nommer quelque chose comme si, de façon perceptive et réelle, la chose était d'abord, de façon tout à fait vraisemblable, un objet et une perception inconnue ou énigmatique en face de soi. Elle n'est pas encore devenue un objet de nomination de connaissance. Elle n'est pas seulement naissance des choses, cette attitude, naissance des choses et des faits, mais en quelque sorte ignorance plus ou moins fondamentale ou ignorance première, mais par position de notre esprit et de nous, eu égard aux choses et eu égard à notre esprit et eu égard aussi sans doute au fait et au phénomène de connaissance. En ce sens, savoir est, je dirais, est devenir lettré et rentrer aussi dans une forme d'affection et d'amour dont le centre est le nom, sans évacuer les perceptions, la sensorialité ni les choses. Et là, assurément, on est dans la ligne de développer ou de considérer et de reconsidérer pas mal de choses ou de données communes, et notamment concernant le rapport entre le langage, la nomination et les perceptions comme fond et comme base, et plus spécialement sur ce qui fait lien et constitue du langage dans son esprit comme mode de fait et comme assemblage. Ce qui constitue aussi un début et une forme de conscience, mais aussi concernant la façon systématique et systématisée de se parler les choses, je dirais de se les nominer, c'est-à-dire aussi de se les représenter, de les recevoir, parler, être en relation avec et de les percevoir et sentir. Là encore, il y a beaucoup à développer pour ne pas tomber dans une fiction du tout parlé et du tout langage oral parlé, et c'est ce que j'ai commencé à tenter de faire, d'autant qu'on tombe sur deux notions fondamentales à croiser dans leur complexion ou composition et état. D'une part, on est en présence d'entités représentant des façons de percevoir et de sentir, et comme en soi et à l'état pur, et au-delà des questions du langage dit verbal, impliquant le lire et le parler, ou l'imagination du lire parler et de se représenter. Et d'autre part, on est en présence d'une façon implicite de se penser et de nommer soi et son corps, qui permettent de se parler et d'être comme en rapport et en continuité avec soi. C'est ce que j'ai déjà précisément tenté de mettre en place et d'examiner. C'est là un opérateur global qu'on peut, je dirais, intuiter comme capacité donnée par l'intuition, comme un entier, mais qu'on ne peut pas du tout penser et parler comme étant le « je » ou les pronoms personnels liés aux usages et formes de connaissance et de conscience attachés au langage parlé. Et c'est là un fait qui demande vraiment à être accentué et réfléchi. Et c'est là où il y a un problème très important à considérer et qui met en présence d'une forme d'au-delà du langage social, collectivement et massivement parlé et socialisé, et du langage social et collectif officiel. La façon propre de se nommer en forme de corps, de sensation étendue et en mode de présence, et d'être en présence ou mise en présence avec soi, la parole venant au bout, est le « nous ». Ce terme, ce vocable de « nous », ou cette représentation quasi, je dirais, magique, dans sa compétence d'assemblage, est d'une part un concept, et d'autre part, une représentation trinitaire, ou implicitement trinitaire, en mode de schéma et en mode de pensée, ou de capacité de pensée. Elle évoque dans ses valences cette capacité de représentation trinitaire, l'esprit, le sien, son corps, dont ses sensations, et sa valence représentative ou comme conscience de soi et identité. Corps, sensation et idée, là, ne peuvent être séparés. Et on peut peut-être dire l'ensemble comme personnalité sociale, conception d'une entité fondamentale, mais elle ne saurait s'y dissoudre et s'y confondre. En tout cas, une trinité de conscience. Elle donne le modèle des unités implicites, des modalités de perception et de langage, et de continuité de ces modes de rapport avec soi. Le grand intérêt de la notion de pensée et de modèle est que, dans son ensemble, elle contient les unités simples et les détails, ou les unités composantes qui permettent de ne pas les nommer. Et comme langage, le modèle représente du trait de pensée. Mot-clé 8, le langage, séquence 3. Comment présenter la notion de langage comme notion étendue? Je vais, pour terminer cette présentation de ma façon de présenter et de parler le langage comme une notion de corps et d'esprit et comme une notion de perception et de pensée, poser et tendre un peu le regard comme une perspective et une nécessité radicale, à savoir regarder et considérer le langage comme un œil, un média, une présence, une question de conscience qui, pour ainsi dire, inverse la nécessité de nommer ou de nommer pour savoir ou de ne connaître qu'avec l'esprit, et tel que nous pouvons en avoir la vision, mais pas la totale et immédiate représentation. Chose encore intéressante. En ce sens, le langage, comme représentation de nous et de notre esprit, et pas seulement comme représentation statique, est une forme de parler et de conscience, mais aussi de présence étendue. La difficulté est de conceptualiser cette présence et cette étendue. Nous pouvons examiner ce que nous pouvons appeler cette fonction ou cette compétence et ses usages comme fonction et compétence de notre esprit, cette dernière impliquant les représentations et les compétences de notre corps. Et pour cela, il est bon de retenir cette notion du « nous » comme représentation implicite de notre corps et de notre personne, ou ce qui revient au même de nos perceptions et sensations, et en latence dans notre pensée. Et pour cela, bien sûr, il serait tentant de définir ou de répondre à la question de ce qu'est notre pensée en tant que chose, mais aussi comme élément de présence ou de langage, et de la convertir en mode de savoir. Le langage devenant alors la façon dont les choses nous sont présentes ou connues, ou encore le moyen et la façon dont elles nous sont présentes, comme au travers d'une grille, d'une vitrine, d'un écran. Mais de là, nous ne répondons pas plus loin, car cela nous emmènerait sur des développements intéressants, mais trop nombreux. Je terminerai cette réponse sur le langage et ce que j'entends et pose et comprends par là, au-delà des modes de parler et de langage commun, avec leurs significations implicites et comme forme d'évidence, en modélisant et thématisant sur cette notion du « nous » que j'ai présenté comme mode de parler, de conscience et connecteur implicite, intervenant dans et au travers de nos fenêtres de perception et de nos fenêtres comme médias de perception. Et comme unité de base, alors, et selon ce modèle implicite et tacite, et en général non extrait ou non objectivé du « nous », et le plus souvent rendu conscient comme le « soi » ou le « moi », il faut poser et concevoir le langage, et pas seulement en termes et unités de définition. Il faut le poser, parler et penser dans une même unité assemblée de conceptions et dans un même ensemble. Et je vais en énumérer quelques données ou que j'appellerais des qualifiants, comme une unité de perception et de temps, comme ayant besoin de se présenter, de se faire valoir, devant passer par le corps comme moyen et médiateur incontournable, et involontairement, en quelque sorte, concepteur, et donc de se faire éprouver comme une traversée à plusieurs niveaux, impliquant des formes de niveau, de transposition, de transformation, d'implicite, unissant et rassemblant en soi des conceptions à la fois psychoconceptuelles et mentales, en mode agrandi, demandant à être agrandi progressivement, comme pratique, comme concept, comme présence, y compris dans ses implicites. C'est cette voie de conception, de théorisation et de conceptualisation progressive que j'ai choisie et que j'essaie de développer et de pratiquer pour mon compte, comme recherche, comme chercheur, comme entretien, et pour en munir et introduire les personnes dans leur développement ou leurs préoccupations de développement et de formation propre. On parle souvent de développement personnel de façon standardisée, mais à mon avis impropre, et dans des codes devenus impensés, figés ou complètement gadgetisés. Or, le développement est selon moi, je le présente ou le présente comme une augmentation de ses capacités et de ses qualités de présence. Certes, à compte personnel et d'auteur, mais aussi comme implicitement comme un plus ou un mieux de conscience de soi et un élargissement également de cette conscience et de la considération implicite de son entourage ou de ses entourages, y compris comme moyen de penser ses formes de rapport et d'inclusion. Donc un élargissement de ses formes de conscience propre et relationnelle. Comment cette conception remanie les formes et conceptions de conceptualisation standard, notamment standard commune, et dans la conception et le cadre de ce qu'on appelle les psychothérapies, ou une pensée des institutions et de la psychiatrie, est encore une autre question, dont les conditions et les fonctions de ce qu'on appelle l'écoute, de façon générale, fonctionnelle, ou largement conceptuelle, dans un parler conceptuel et assez dogmatique. Pour cela, il faut prendre garde aux notions trop conditionnées, étroites et implicitement intellectuelles ou conceptuelles, n'impliquant que les données de l'auditif et au moins implicitement dans ses formes et ses attendus œcuméniques. Et sans théorisation suffisante des espaces conceptuels et relationnels à mettre en mode de conception. Pour cela, il faut complètement repasser par le visuel, la vision, le mode de conception impliqué par là où les présences, et pour modéliser dans la présence ou l'absence, ou la non-présence, et par le canal des formes de l'intelligible. Ce qui implique un redimensionnement large et complet. Il faut alors développer ce genre d'implicite.